Maintenant, je voudrais inviter un collègue de Marc, qui est Jean-Christophe Sechka, donc aussi de Lyon, un médecin, qui va nous parler de l'utilisation des aides cognitives, une CRM oubliée.
Merci.
Ça marche ?
Oui, ça marche.
Alors, bonjour. Je vais essayer de me réveiller. Je ne sais plus de quoi je dois vous parler. Voilà. Alors, utilisation des aides cognitives, une CRM oubliée. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. C'est le bouton rouge, c'est ça ? Merde. Alors, ça, c'est vous. C'est-à-dire une CRM avec plein de gens qui vont communiquer entre eux. Donc, moi, je suis à Lyon. Je suis formateur en simulation, je suis anesthésiste réanimateur. Vous n'avez pas une zapette qui fonctionne parce que ça va être un peu compliqué. Je vais revenir très très rapidement sur les CRM parce que vous en avez entendu parler beaucoup ces jours-ci. J'ai mis une définition que j'aime bien, qui est un système de management qui permet d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles, l'équipement, les gens, pour promouvoir la sécurité et l'efficacité dans les opérations.
Je crois que l'écran il est aussi un peu décalé, je ne sais pas si...
Ouais, ça... Vous auriez nos zapettes, non ? Parce que ça va être... Ah, ok, merci. Finalement, Mac, c'est pas terrible. Bon, je vais juste voyer la petite diapo là, enfin, vous allez revenir dessus. Ah, merci. Ça vous dit quelque chose ? Allez, des indices. Suède, 1628. C'était le plus beau, c'était le plus grand. Un chef-d'œuvre de l'époque, le fleuron de la marine suédoise, trois ponts, un armement hors pair, un chef-d'œuvre de sculpture, d'ornementation. Il part pour son vol d'essai, mais son premier voyage, il fait 1000 marins, il se retourne, il coule, 24 morts au lit. Terminé. Enquête, alors à l'époque il n'y avait pas le BEA, le Bureau des études aéronautiques, enfin, ou l'équivalent, ils font quand même une enquête. Tous les artisans qui ont travaillé sur ce bateau, alors ça s'appelle, il s'appelle le VASA, donc on appelle ça maintenant le syndrome du VASA, tous les artisans qui ont travaillé sur la construction de ce bateau étaient les meilleurs de l'époque, et pourtant ça a été un échec notoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait chacun a fait son boulot, il n'y a eu aucune coordination, le bateau était mal équilibré, il est parti à vide, et à la première bourrasque il s'est retourné, et voilà. Donc ça c'était pour illustrer l'intérêt du travail d'équipe. Et bien plus tard, donc ce qui veut dire que la notion de CRM, déjà, on a eu une intuition il y a longtemps que le travail de mise en commun des savoirs pour une meilleure efficience, voilà, c'est pas une notion qui est récente. Ça a été quand même dès... il manque un bout de la diapo. Dès 1976, il y a un premier travailleur, c'était Hugh Smith, qui a commencé à réfléchir. Il a publié en 1979, à la demande de la NASA, des travaux sur les comportements dans les cockpits et qui montraient qu'il y avait des notoires baisses de communication interpersonnelle, de la prise de décision, qu'il n'y avait pas de travail d'équipe qui conduisait à la plupart des crashs des avions. Et puis, dans les années 79 à 88, parce qu'il y a eu pas mal de publications là-dessus, c'était toujours les mêmes conclusions, des pilotes très entraînés, et pourtant, malgré l'entraînement, le haut niveau de ces pilotes, il y avait toujours une variance énorme dans les résultats, dans la manière de travailler. Et ils ont quand même remarqué qu'il y avait un certain type de leadership qui conduisait au rattrapage de plus d'erreurs, un meilleur fonctionnement d'équipe et à une meilleure utilisation des checklists. Et puis finalement, tout ça aboutit après quand même, on en a déjà parlé, un certain nombre de crashs en 1980 au premier programme de CRM chez United Airlines. ce qui a conduit à, donc, à des notions dont vous avez largement entendu parler. D'abord le cockpit resource management, donc déjà sur les travaux de la NASA, qu'est-ce qui se passait quand il y a trois Gugus dans une station, enfin dans une capsule, puis après dans un cockpit d'avion. Ensuite, on a élargi à l'équipage, donc crew resource, puis maintenant crisis, c'est-à-dire qu'on fait intervenir non seulement les pilotes, mais en fait toute l'équipe. Voilà, donc on a élargi le concept. Alors, il n'y a pas moyen de recentrer un peu l'image. Alors en fait, ça c'est un document qui vient de chez Air France et qui en fait reprend un petit peu tout ce qui est les items de CRM chez eux. Il y a donc le pilotage, donc l'utilisation des automatismes, le pilotage pur. Il y a ce que nous on a l'habitude de ce qu'on a intégré nous comme les outils de CRM, les prises de décision. Et puis il y avait une partie utilisation des procédures et reconnaissance des procédures. Et puis, c'est pareil, l'écran n'est pas bon, donc il manque depuis les années 90 les travaux de GABA, qui était donc à la fois anesthésiste et pilote, et qui s'est dit, tiens, ces outils-là, il faudrait quand même qu'on les utilise. Les pilotes utilisent une manière de communiquer, une manière d'utiliser des checklists pour faire mieux, pourquoi pas nous. Et puis, il a effectivement été un des premiers à publier pas mal d'articles sur l'amélioration des procédures au bloc opératoire dans les salles d'urgence en utilisation des checklists. Et puis, il y a eu le pavé dans la mare en 99, le bouquin Air is Human de la Société américaine de médecine, qui a démontré qu'aux États-Unis, c'était probablement que les erreurs médicales étaient la troisième cause de mortalité, avec plus de 100 000 décès par an aux États-Unis, chiffre qui est confirmé en France avec, selon les sources, entre 10 et 50 000 décès évitables à l'hôpital en France, 50 000 chiffres de l'OMS, et puis en tout cas 10 000, c'est un chiffre qui circule dans le discours politique, donc ce sont des niveaux d'insécurité qui ne sont pas tolérables. Et puis, depuis les années 2000, on est un petit peu en retard sur les Nord-Américains, mais il y a l'essor de la simulation médicale. Tout ça pour aboutir finalement aux outils, ça c'est un graphique que vous connaissez, hein, qui est bien connu, les différents points de ce qu'on appelle donc les CRM en médecine, ça va, la communication, la distribution du travail, la charge de travail, la mobilisation des ressources. Certains de ces outils peuvent paraître un petit peu subjectifs, mais il existe des grilles de cotation quand on veut faire des travaux de recherche dessus. Par exemple, la grille Ottawa que nous on a utilisée, je reviendrai un petit peu dessus. Et avec des mots assez précis, on arrive à coter relativement précisément des notions qui peuvent paraître très subjectives. Alors, un bouquin que j'aime bien, qui s'appelle « Une histoire de la stratégie », qui dit qu'en fait, il est difficile de prédire à l'avance une bonne stratégie, mais il est facile de voir les stratégies qui ne fonctionnent pas. Et donc, je voulais vous parler d'une première étude, c'était un audit qui avait été commandé par les Korean Airlines dans les années 80, c'était une compagnie aérienne qui était catastrophique, et donc qui avait été fait par David Greenberg, qui était l'ancien vice-président de Delta Airlines. Et puis, du coup, je ne connais pas la phrase par cœur, mais en gros, il existe actuellement dans les cockpits, j'ai mis trois petits points pour ne pas dire coréen, pour ne pas faire de mauvaise pub, un mélange explosif d'excès d'arrogance, d'attitude autoritaire, de manque de discussion, etc., qui doivent être à tout prix éliminés des cockpits. Est-ce que ça vous rappelle des choses dans vos services hospitaliers? Moi, oui. Alors, je voulais vous mettre un petit extrait de film. Alors, il y a du son normalement. Les sous-titres sont approximatifs parce que ça vient de YouTube.
Est-ce possible d'avoir le son ou pas? Non, hier, ça marchait. Donc, John Wayne à gauche, Robert Stack à droite. Donc, j'ai pas pu communiquer, j'ai été un petit peu retardé, il dit. Le petit regard au copilote qui baisse les yeux d'un air humilié.
Bon, sympa comme CRM. Bon, alors un autre bouquin. Et pourtant, la torgnole, si on prend dans l'excellent bouquin Beyond the Checklist, si on prend qu'est-ce qu'une bonne communication, la torgnole, c'est clair, c'est spécifique, c'est concis. Hein. Elle tombe en temps et en heure. Est-ce que pour autant ça suffit pour faire des bonnes CRM? Non. Et c'est là qu'interviennent notamment d'autres outils qui pourraient être les aides cognitives pour faire encore mieux. Alors, les aides cognitives, une CRM oubliée, pour l'interrogation, eh bien pas pour tous. Et donc je vais revenir à la notion d'aide cognitive qui sont en anglais des prompts, c'est-à-dire des outils qui sont design qui sont développés pour aider les gens en situation à se sortir de leurs problèmes. Donc c'est différent d'un protocole de service. C'est un outil qui doit vous servir lorsque vous êtes dans le stress à vous sortir de la situation. Alors qui sont les pionniers dans les aides cognitives? Eh bien non. On a tendance à dire l'aviation, eh bien non, l'erreur est humaine, c'est connu depuis Sénèque, ça fait 2000 ans. Et une des premières aides cognitives, eh bien, ce sont les moyens mnémotechniques, par exemple. Alors nous, on travaille aussi avec les militaires, on sait que dans les prises en charge de sauvetage au combat avec des blessures, et qu'on retrouve dans les périodes d'attentats, hein, des blessures de guerre, on sait que dans la première heure, 15 à 20% des décès peuvent être évités avec une prise en charge agressive et standardisée. Les militaires français utilisent un acronyme, les Américains en ont d'autres, ça s'appelle le Safe March Ryan, à chaque lettre correspond, alors marche c'est Massive Bleeding, A, Airway, R, Respiration, C, Choc, H, Hypothermie, Head, on réévalue, et ensuite Ryan, on réévalue tout, on traite la douleur, etc. Les militaires sont parfaitement traînés, tous les militaires ont un niveau 1, ce qu'ils appellent de March Ryan, il y a trois niveaux qui vont du basique, je sais poser un garrot, je sais mettre quelqu'un en PLS, niveau 2, ils commencent, pour certains, à mettre des voies veineuses, à savoir exsuffler un pneumothorax. Puis niveau 3, ça va être pour les médecins et les infirmiers. Moi, personnellement, en tant qu'anesthésiste, je suis médecin réserviste, je fais pas mal de formations avec les militaires, ça m'a changé ma manière de travailler. Et pourtant, quand on regarde travailler les militaires, on fait des formations avec des gars des forces spéciales, etc., qui sont super drillés, ils font quand même des erreurs. Donc même avec un moyen mnémotechnique, comme ça, de travailler de tête, eh ben, ça ne suffit pas, la prise en charge n'est pas parfaite. Après, on en vient aux pionniers, on va dire, de l'industrie à haute sécurité, qui sont l'aviation civile, le nucléaire. Et là, pour le coup, ça fait longtemps chez eux, les checklists, les éco-cognitives ne sont plus une option. Et ça permet d'arriver à des niveaux de sécurité, on en a déjà parlé, de 10-6, alors que nous, en médecine, on est quand même 10-4, 10-5. Tout n'est pas comparable. Alors là, ça serait bien que j'ai le son, parce que j'ai encore Bon, pas de chance. Parce que là, je vous mettais en situation, ça faisait un bon coup de stress. Vous avez probablement tous vu le film Sully. En général, j'aime bien passer l'extrait où il se pose sur le Hudson. Mais là, j'aime bien le début, parce que voilà, ils se prennent un vol d'oies sauvages. Les deux réacteurs s'arrêtent. Alors, ils ont la sidération. Pendant 35 secondes, ils analysent la situation, plus de son, plus d'image. Voilà. Alors il y a le capitaine qui fait une manœuvre réflexe, c'est-à-dire que là, il n'a pas sorti la checklist. Bon, c'est un film, hein. Ils ont repris, Clint Eastwood a repris précisément les séquences de vol. Le copilote sort sa checklist et il la suit précisément pour essayer de remettre en route les moteurs. Il suit la checklist pour remettre les moteurs qui ne s'arrêtaient tous les deux, ce qui n'était jamais arrivé. Le commandant de bord, action réflexe, il reprend les pilotages, l'avion, parce qu'il y a déjà eu des crashs où les gens oubliaient de piloter l'avion, hein, sur juste un simple voyant de train d'atterrissage qui s'allume, tout l'équipage est concentré sur le truc, puis personne pilote, l'avion s'écrase, c'est déjà arrivé. Donc action réflexe, communication en boucle. Le pilote, il a ses actions réflexes, il reprend le pilotage. Le copilote suit la checklist pour essayer de relancer les moteurs. Pendant ce temps-là, il communique avec la tour de contrôle pour essayer de savoir s'ils peuvent faire demi-tour sur posé en vol plané vers l'aéroport d'où ils sont partis, parce que c'est arrivé, je crois, moins de 2 minutes après le décollage, ou sur un aéroport de secours qui n'est pas très loin. Puis à un moment, il dit « on ne peut pas, on va se poser sur l'Hudson ». Et pendant ce temps-là, le copilote, il suit et il n'oublie rien. Voilà, puis après, finalement, ils vont se poser sur l'Hudson, un amérissage sans aucune victime, ce qui n'était, pareil, jamais arrivé. Bon, ils avaient aussi pour eux qu'il n'y a pas de vague, hein, mais et voilà, en fait, il y a une communication parfaite dans l'équipe, utilisation d'action réflexe, utilisation de checklist, et puis une communication en boucle qui a été parfaite. Et donc, ça a fait un truc complètement, on va dire, anecdotique pour l'aviation, mais qui a quand même profondément changé les mentalités. Donc, ce qui fait que maintenant, dans l'aviation, on vit par les checklists, on meurt sans elles, et le problème est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'il ne se pose plus de questions. Donc, nous, on en est encore loin. Alors, les checklists, d'où ça vient? Rapidement, 1935, un vol d'essai d'un avion qui s'est appelé plus tard le Super Fortress, qui était un bombardier qui avait un rayon d'action assez long, C'était le début de la guerre. Il y avait plusieurs concurrents, Boeing, McDonnell, etc., qui se tiraient la bourre pour avoir le marché, parce que la guerre, ça rapporte des sous aux industriels. Vol d'essai, l'avion décolle. Ils avaient oublié d'enlever une éclisse, c'est-à-dire une pince qui va bloquer les gouvernes pour pas qu'elles s'abîment lorsque l'avion est au sol quand il y a du vent. Ils ont juste oublié de l'enlever avant le décollage. L'avion décolle, pouf, il fait une culbute, il décroche, il s'écrabouille. Deux morts, les survivants de l'équipage sont gravement brûlés. Et là, Boeing se dit, ah, on va perdre le marché, c'est bête. Alors qu'en fait, ils se sont tous pris la tête entre ingénieurs, et ils se sont dit, il ne faut plus que ça se reproduise. Et ils ont inventé la checklist, non pas une, mais quatre checklists, une pour avant le décollage, le vol et l'atterrissage. Et là sont nées les checklists, et depuis lors, 80 ans après, les checklists ne sont pas une option en aéronautique. Une checklist toute seule, ça ne sert à rien, il faut qu'il y ait un travail d'équipe, donc il faut adhérer chacun à sa checklist et s'assurer, et c'est ça le travail d'équipe, s'assurer que les autres suivent aussi leur checklist. Alors du coup, je ne peux pas tout vous lire parce qu'il me manque un bout. Bon, les checklists sont le seul moyen de valider que le fait que tous les items ont été d'une prise en charge ont été validés. Et sachant que dans un avion, mais finalement dans un bloc opératoire, c'est pareil, le nombre de tâches quand tout va bien est déjà ahurissant, donc on imagine ce qui se passe quand ça va mal. Et puis les équipages sont entraînés à suivre leurs checklists, leurs aides cognitives, malgré leur instinct, qui pourrait être poussé par l'urgence finalement faire des actions réflexes qui pourraient ne pas être adaptées. Finalement, toujours dans ce bouquin Beyond the Checklist, que je vous conseille de lire, c'est vraiment très très bien, et ben, ils disent finalement, en gros, toutes les industries à haute sécurité sont arrivés à utiliser ça, pourquoi pas nous? Voilà, donc ça c'est le même. Et ceci nécessite un entraînement, la mise en place d'outils qui sont adaptés et l'entraînement d'équipe. Je vous pose des questions et vous allez me répondre très honnêtement. Est-ce que vos décisions sont aussi bonnes en situation d'urgence qu'en situation normale? Un vrai professionnel peut mettre de côté ses problèmes personnels au travail? Vos performances ne sont pas affectées par vos problèmes personnels. Vous ne faites plus d'erreurs sous stress élevé. Vous ne faites pas plus d'erreurs sous stress élevé. Et la fatigue n'affecte pas votre prise de décision. En période pré-CRM en aéronautique, ils ont posé ces questions à des pilotes. Évidemment, ils ont tous dit que la fatigue, pas de problème, machin. On sait bien que les réponses sont non. Et nous, c'est pareil en médecine, parce qu'on a l'habitude de pas beaucoup dormir. On nous demande des actions urgentes, des prises en charge compliquées quand on est crevé, etc. Une aide cognitive, une revue de Marshall qui a montré quelles seraient les caractéristiques d'une aide cognitive pour nous. Ça doit être un outil dont le contenu doit être dérivé des meilleures pratiques, c'est-à-dire le contenu doit être irréprochable. Deuxièmement, le design doit être approprié à votre activité. Il n'est pas question de prendre une checklist de pilote pour l'intégrer dans un bloc opératoire, par exemple. Ce n'est pas le même design, on n'a pas le même entraînement. Le format doit être adapté à la pratique, donc là des formats on va discuter, il y en a plein, et puis ça doit permettre d'assister les autres membres de l'équipe, c'est-à-dire que ça doit être intégré dans un travail d'équipe. Alors, nous on s'était demandé dans une première étude, on avait fait une grosse étude l'année dernière qu'on a publiée, je vous en parlais rapidement, on était revenu dessus en me disant, en des retours, c'était les gens qui ne connaissent pas, ils me disent, moi je ne suis pas un vrai docteur, on me donne une checklist ou un téléphone dans la main avec une appli, j'ai l'air de quoi. Finalement, on a demandé aux jeunes, est-ce que vous auriez confiance si votre médecin senior utilisait soit rien du tout, sa mémoire, c'est un grand docteur, il sait tout, deuxièmement, une aide cognitive papier. Troisièmement, une aide cognitive sur une tablette ou sur un téléphone. À mon grand étonnement, je pensais qu'ils allaient me dire, moi, j'aime bien bosser avec un vieux senior qui sait tout. Finalement, il n'y a aucune différence. Ce qui veut dire que chez les jeunes, en tout cas, ce genre d'outil, c'est complètement intégré dans la pratique. Ensuite, il faut savoir, alors c'est un autre article, du coup, les références, je pourrais vous les donner. L'aide cognitive doit être suffisamment complète pour encourager la consultation sans surcharger les possibilités cognitives du leader, donc ça doit simplifier le travail, c'est pas là pour le compliquer, et ça doit être relevant, bon, c'est-à-dire que ça doit être adapté, et elle doit être facile à trouver, c'est-à-dire si on a des aides cognitives sous forme papier, on ne sait pas encore bien où il faut les mettre, est-ce qu'il faut mettre tout le bloc dans un tiroir, est-ce qu'il faut les séparer, les mettre partout, sachant qu'à chaque fois que quelqu'un va l'utiliser, il va oublier de la remettre, voilà, donc ça, il n'y a pas encore consensus. Voilà. Comment utiliser les aides cognitives? Il y a plusieurs manières. C'est soit je sors ma checklist, je plonge dedans, je ne me pose pas de questions. Soit, comme tout à l'heure, Tom Hanks, je peux sortir en situation de stress ou d'urgence des items de mémoire. Par exemple, suite à l'incident dont je vous ai parlé, maintenant, il y a des compagnies aériennes qui disent la première chose, c'est on pilote l'avion. Et ensuite, on éteint les alarmes et ensuite, on commence à se poser les questions et on sort la bonne checklist. Sans quoi, ça peut aboutir à des catastrophes. Il y a aussi, et ça, ça nous concerne directement, nous on sait très bien qu'au déchocage, les vieux de la vieille, la première chose qu'ils font quand ça commence à barder, ils font deux pas en arrière, ils lancent le chrono, puis ils disent « toi tu fais ça, toi tu fais ça ». Donc lancer un chrono, c'est aussi une action réflexe qui permet aussi de réfléchir et de désamorcer la situation. Et puis aussi, en aéronautique, ça j'en ai longuement discuté avec un pote à moi qui est commandant de bord chez Air France et qui avait participé au programme de simulation à Roissy, et ben, il m'a dit qu'en fait, c'était pas forcément aussi simple que je sors ma checklist et je résous les problèmes. Des fois, quand il y a une situation qui mérite la réflexion et pour laquelle on a un petit peu de temps, on fait place à l'expérience de l'équipage, on réfléchit et on sort la bonne checklist. Alors en fait, j'avais recueilli un petit peu toutes ces idées, j'ai fait une carte mentale sur la manière dont on les utilise, c'est imbitable, je vous dis en gros. Suivant que la situation est normale, anormale, si elle est normale, plus une petite genre, je démarre mon moteur, mais en plus il y a une situation de givre, eh ben, ils vont pas, nos pilotes, eh ben, on en a un ici pour nous confirmer ou pas. La manière d'utiliser les checklists n'est pas la même. Soit je fais et je vérifie ce que j'ai fait sur la checklist, soit, en gros, la situation craint, je lis et je fais parfaitement ce qui est sur la checklist, soit je commence par des items de mémoire et ensuite je sors une checklist pour faire avec des killer items, c'est-à-dire pour enlever ce que j'aurais oublié pour le cocher, et puis soit des actions réflexes. Alors, Do Verify, eh ben, c'était notre première étude qu'on a publiée dans le BGA en 2017, donc un travail de notre interne Rodolphe Lelédier. Bon, ben là, on avait fait un prototype d'aide cognitive sur téléphone. On avait rentré cinq situations de crise d'anesthésie-réanimation. En l'occurrence, il y avait l'arrêt cardiaque, fibrillation, l'intoxication aux anesthésiques locaux, le choc anaphylactique, l'hyperkaliémie sévère et la cinquième, l'hyperthermie maligne. J'aurais tendance à dire que dans l'univers, il y a trois constantes. Il y a la vitesse de la lumière, la constante de Planck et 40. 40, c'est le 40%, c'est ce qu'on oublie quand on est stressé. Et ça n'a pas loupé. Sans être cognitif sur les 5 scénarios, nos internes, on a fait passer 52 internes d'anesthésie réa, ils sont passés tous deux fois avec et sans, dans un mode randomisé, sans une aide cognitive sur téléphone. Sans aide cognitive, ils oublient tous 40% de ce qu'on leur demande sur la partie technique. On a aussi vérifié la partie non technique. Les résultats, ils sont là. On diminue 60% les erreurs. Et on a amélioré la partie non technique. Et donc, c'était la première fois que sur une aide cognitive, on a numérique en tout cas. Sur les aides cognitives papier, il y a très peu de travaux et qui sont un peu contradictoires. Mais là, on arrivait clairement à une amélioration des CRM avec des items dont on pourra discuter si on a le temps. Voilà. En tout cas, une nette amélioration de la partie technique et une amélioration de la partie non technique. Donc, ce qui serait read and do, alors on a fait une deuxième étude et on s'est inspiré de tous les retours d'expérience de la première étude pour améliorer l'ergonomie de notre deuxième version d'appli. Parce qu'une aide cognitive, ça ne se conçoit que s'il y a des retours de terrain. C'est un outil pour les gens de terrain et il faut prendre les retours de terrain pour les améliorer. Et là, on a fait... Donc, ça, c'est la deuxième version. De principe, on avait enlevé pour nous... Enfin, moi, j'ai fait comme pour moi, c'est-à-dire j'ai une concentration moyenne, une mémoire moyenne et une capacité d'attention moyenne. Si on met un algorithme sous les yeux quand je suis stressé, je vois rien. Donc, l'important, autant dans le prototype que dans la deuxième version qu'on vous présente là, qu'on va publier, on va passer un abstract à l'ASFAR, j'espère qu'il sera accepté, c'est on montre les actions à faire de manière séquentielle et le leader valide, le leader a le téléphone à la main, il valide les actions, etc. Voilà, donc, gestion du temps, parce qu'il y a un chrono qui part, des timers avec des pop-up qui apparaissent, qui vous disent ça fait 2 minutes, changer le masseur, etc. Et là, bah, c'est con, parce que j'ai une vidéo et on n'a pas le son. Bon, alors ça, c'est j'aime bien cette vidéo, parce que c'est une interne à nous, donc il nous a donné l'autorisation pour passer. Elle est super compétente, très émotive. Elle est aussi ceinture noire de judo, mais on la voyait pas, mais elle arrive en... salle de simulation, il faut dire qu'ils savent qu'il va leur arriver quelque chose, donc ils ont une conscience situationnelle assez élevée, elle est toute rouge, etc. Et puis, le patient, il dit qu'il a mal au ventre, et puis d'un seul coup, il passe en... Oh là, 2 minutes, ça va faire vite. Il passe en fibrillation, elle a une petite période de sidération, elle commence à faire des actions réflexes, elle fait ça, et puis on lui passe l'aide cognitive, et puis d'un seul coup, le travail s'organise. Et puis elle nous a fait un top score en termes techniques et non techniques, et sur cette étude donc on va publier, on a encore des résultats sur le non technique qui sont pas mal. Les items de mémoire, je voulais vous en parler parce que finalement on apprend à nos internes et nous-mêmes on nous apprend des longues checklists récupération d'arrêt cardiaque alors qu'on sait très bien qu'on oublie 40 à 50% des choses et comme les pilotes on pourrait peut-être très bien s'obliger à juste apprendre j'appelle à l'aide, je commence le massage et je sors la checklist Et finalement, probablement qu'on s'en sortirait mieux en intégrant à notre entraînement ces checklists. Et les actions réflexes, ça rentre aussi là-dedans. 40%, j'en ai parlé, c'est les pertes de moyens. Ça conduit à des accidents évitables. Dans 70% des accidents, il y a de l'être humain, du travail d'équipe et des mauvaises communications. Et ça, chez nous, rien que pour la France, bon, j'ai parlé de Air is Human, ça conduit à plus de 10 000 décès pour un coût social de 200 millions par an. Alors, pourquoi je vous disais ça? Parce qu'on peut faire mieux. Ce qu'on avait remarqué dans notre étude, c'est qu'en fonction de l'ancienneté des internes, la partie technique ne s'améliore pas. En revanche, le non-technique ne fait que croître avec l'entraînement et l'ancienneté. Ce qui veut dire que la cause de la majorité des accidents, c'est-à-dire tout ce qui est non-technique, la mauvaise communication, le travail d'équipe, ça s'améliore avec l'entraînement, mais c'est un petit peu plus long. Et donc, il faut s'entraîner. Et on l'améliore avec les aides cognitives, en tout cas numériques. Voilà, j'ai bientôt fini. Ça, c'était pour dire que les aides cognitives, bon, je n'ai pas trop le temps de vous détailler, c'est non seulement travailler l'ergonomie avec les retours de terrain, mais aussi le contenu qui doit être en permanence réactualisé en fonction de l'efficacité. J'ai fini. C'est-à-dire que même avec les aides cognitives, il y a des items qui passent à la trappe. Par exemple, l'adrénaline après le troisième choc sur une fibrillation. Et bien, systématiquement, on a eu des... Alors, on a créé une manière graphique pour que ça nous saute aux yeux. Quand il y a plein de points rouges, ça veut dire qu'ils ont bien fait. Un point, c'est une prise en charge. Et quand les points sont tout petits ou inexistants, quand il y a moins de points, c'est-à-dire que les scores sont moins bons. Et finalement, on se rend compte que l'adrénaline, il y a plein de gens qui la font avant le troisième choc, tout simplement parce qu'on ne leur a pas dit de ne pas le faire. Donc, ils prennent des initiatives qui ne sont pas bonnes. Donc, le contenu des aides cognitives doit être adapté aussi au retour de terrain. Ça, c'est pour vous dire qu'on a aussi un interne militaire qui a démontré une supériorité. Ça, c'est un membre des forces spéciales avec une aide cognitive, donc ça s'appelle MAC, c'est notre truc. Ils améliorent la prise en charge technique et non technique sur des simulations sauvetage-combat. Et puis, on va s'intéresser aussi au premier secours. La position du leader dans l'équipe. Si nous, on a choisi que le leader ait l'aide cognitive, contrairement aux Américains où il y a un leaser dans le coin de la pièce, on n'a pas fait ça parce qu'en France, on sait très bien que les emmerdements arrivent toujours à l'heure du déjeuner pendant les vacances le dimanche quand il n'y a personne. Donc, mettre un gars avec une feuille de papier dans un coin, si on a deux mains pour le faire travailler, on va le faire bosser. Et donc, on a donné le téléphone au leader. Et on a eu raison, je pense, parce que naturellement, il fait deux pas en arrière avec son téléphone. Il ne peut pas mettre les mains dedans, et comme ça, il a une meilleure vision, et le non-technique est aussi amélioré. Une aide cognitive, ça ne se conçoit, ça ne remplace pas le soignant, ça l'aide à faire mieux, donc on est un petit peu de le enhanced human, hein, c'est-à-dire le bonhomme plus l'aide cognitive fait mieux que le bonhomme tout seul. Et pour ça, bon, nous on a développé, mais on pourra en parler, un système d'édition qui permet de créer toutes les procédures que vous voulez, et de les implémenter dans votre téléphone, et en plus de stocker les données, d'après on peut retravailler les prises en charge. Je conclue. C'était pour dire qu'en gros, on reprenait des arguments. La sûreté en aviation n'est pas qu'une question de checklist, de protocole. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la même chose. Ça a mis 30 ans à s'implémenter dans l'aviation. Ils ont eu des freins aussi, parce que les premiers pilotes, quand on leur a dit de prendre des checklists, machin, ils ont dit « Oh, c'est bon, moi, j'ai fait la guerre, ça va. » Voilà, il y a tout un tas de freins. On a les mêmes. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas aussi bien. On a un challenge aussi qui est d'éviter ou diminuer le nombre de morts évitables à l'hôpital, d'améliorer nos prises en charge, donc ça commence tout petit avec les internes, on les entraîne. Nous, à Lyon, ils sont tous quasiment passés avec les aides cognitives numériques, ils trouvent ça très naturel, et j'ai eu des retours très encourageants, c'est-à-dire qu'un interne qui a utilisé dans un protocole de recherche l'aide cognitive, il m'a dit, bah, 3 mois après, j'ai eu la même situation au bloc, je revoyais le téléphone, donc nous, on est persuadés que ça améliorera les prises en charge et la mémorisation. C'est fini, merci. Ah, bah, là, j'avais une belle éclipse de soleil. Voilà, je vais faire un jeu de mots à deux balles, je m'éclipse, j'ai fini. Il y avait mon mail, mais il n'est plus, il a disparu, mais je reste à votre disposition. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette présentation très intéressante. On va prendre peut-être une question parce qu'on va être court en niveau temps. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec un ami pilote espagnol, donc méditerranéen, et avec qui on discutait. Niveau culturel, je voulais savoir si vous pensez qu'il y aurait une différence d'acceptation des checklists entre le nord et le sud de la France.
Bah, c'est sûr que déjà qu'on voit l'implémentation de la simulation, ce qui est quand même un effort pour demander à un vieux médecin de passer en simulation, ça semble plus naturel, je pense, chez les anglo-saxons que chez nous. Bon, après, il faut faire l'effort. Je pense que ça passe par de la communication. Faut montrer. Moi, un des premiers, j'étais sûr qu'avec l'aide cognitive numérique qui stocke les données, le premier réflexe, c'est « ouais, ça va me fliquer ». Bon, bah, ça passe par la communication. C'est non, c'est aussi pour prouver le jour où tu as un pépin que tu as fait tout ce qu'il fallait. Donc on a peut-être, nous, latins, une mentalité, il y a des règles, c'est fait pour passer à côté, mais je pense qu'avec la communication, en démontrant aux gens que ça leur permet de faire mieux leur boulot, un de nos premiers soucis, c'était aussi de le publier, de le montrer que ça améliore les prises en charge. Je pense qu'il n'y a pas de raison. En plus, maintenant, il y aura une charge médico-légale, parce que les aides cognitives sont recommandées officiellement par l'ASFAR, ce qui veut dire que potentiellement, à mon avis, un juge peut vous dire, mais dans vos obligations de moyens, est-ce que vous avez utilisé une aide cognitive, votre prise en charge s'est mal passée. On voit pour l'instant, nous, on a 80% de nos internes qui ne savent même pas que ça existe. Donc, il y a déjà un travail de... Mais avec la pression médico-légale et puis l'envie de mieux faire et la communication, je pense qu'on y arrivera.
Donc une question, c'est quelqu'un qui a une question rapide? Non, donc on va procéder pour la fin du congrès. Merci beaucoup.